Vous écoutez, on lit pour vous.
Des pompiers surexposés à l'horreur, un dossier de Gabriel Duchesne, paru le 8 septembre 2025 dans la presse. On gère le chaos. Le pompier a été retrouvé mort dans la caserne. L'homme, dont la famille nous a demandé de taire le nom, a mis fin à ses jours en 2021. Pompier à Boisbriand depuis 1998, il avait tenté quelques jours avant sa mort de réanimer une adolescente qui s'était suicidée. Elle avait le même âge que sa fille. Un matin, sa femme s'est rendue compte qu'il n'était pas à la maison. Tous les membres de la caserne se sont mis à sa recherche. Un jeune pompier l'a découvert dans la salle mécanique. C'est quelqu'un qui était maniaque d'aider les gens. Il faisait le double de ses heures en temps supplémentaire. C'était toujours le premier à prendre la place d'un collègue sur les appels de premier répondant. Il était vraiment obsédé par ça, raconte son collègue Max Charette-Vendette, président du syndicat à l'époque, qui a eu la difficile tâche d'annoncer sa mort à sa conjointe. Un coroner a souligné à gros traits le caractère stressant et imprévu du travail du défunt et les nombreuses interventions potentiellement traumatisantes auxquelles il a participé. Elle a aussi relevé plusieurs lacunes dans l'aide psychologique et la formation offerte aux pompiers, autant à Boisbriand qu'au Québec. 3 ans plus tard, un autre suicide, une autre région, mais un même constat. Cette fois, c'est un pompier du Témiscamingue qui s'est donné la mort. Lui aussi a été retrouvé sans vie à la caserne. Il vivait un état de détresse psychologique et d'épuisement physique important découlant de son travail, dit un rapport de coroner. L'employeur n'avait pas de programme d'aide aux employés et malgré des démarches dans le réseau de la santé, le pompier n'a pas eu accès assez vite à un suivi régulier avec un psychologue. Voir souffrir les autres. Il ne s'agit pas de cas anecdotiques. Une enquête de la presse révèle un problème à grande échelle. Dans les derniers mois, nous avons rencontré plus de 60 pompiers dans 4 régions. Presque tous portent le poids d'au moins un événement qui les marquera à jamais. Pour certains, les stigmates se comptent par dizaines. « On gère le chaos », dit Sandro Troini, pompier à Montréal. « Quand les gens ne savent pas quoi faire, ils appellent les pompiers. » Le métier a complètement changé depuis 20 ans, époque où les premiers services incendie au Québec ont ajouté à leur tâche celle de premier répondant. Les appels concernant des incendies sont devenus la minorité. Pourtant, quand les gens s'en vont pompiers, c'est pour être pompiers, croit le président du syndicat des pompiers et pompières du Québec, Alain Caron. À l'école, la formation, c'est une formation de pompiers. C'est pour éteindre des feux, aller sur des accidents automobiles, faire du sauvetage nautique ou en hauteur, des appels de matières dangereuses. Pour Martin Guilbeault, chef de division à Montréal, les pompiers sont devenus le filet de sécurité de la population. Suicides, surdoses, noyades, accidents de toutes sortes. Le spectre est large. Même dans des régions où ils ne sont pas officiellement premiers répondants. C'est ce type d'intervention que font surtout les pompiers, souvent sans la formation nécessaire. Alain Caron le souligne. Ça se peut qu'ils arrivent sur des situations pour lesquelles ils ont plus ou moins les compétences pour intervenir. Il y a peu de chiffres récents sur la santé psychologique des pompiers. Ce qu'on sait, entre 2020 et 2023, les services offerts à des pompiers par l'organisme d'aide aux intervenants d'urgence, la Vigile, ont augmenté de façon marquée. Selon le Centre d'études sur le trauma, 30 % des pompiers souffrent de détresse psychologique. À Montréal, on parle de 20,7 % révèle une étude de l'organisme publiée en 2024. Environnement difficile. Pourquoi? Les hypothèses divergent. D'abord, il y a le caractère imprévisible du travail. Michel Ratté, pompier à Montréal, nous dit « Je peux être dans mon lit, à la caserne, et 3 minutes plus tard, je suis devant une adolescente écrasée par un autobus. C'est ça que je trouve difficile. On ne sait jamais ce qui va se passer. » Il se souvient d'une nuit. L'appel est entré à 3 heures. Il dormait. En l'espace d'un instant, il était en train d'accoucher une femme enceinte de jumeaux. J'arrive là. La dame est couchée par terre. Il y a du sang partout. Un des bébés est mort-né, raconte-t-il. Max Charette-Vendette évoque des scènes de films d'horreur. Tu arrives sur un appel. Un homme est dehors. Il crie. Il pense que sa femme s'est suicidée. Tu sais que tu vas la trouver, mais tu ne sais pas où. Tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas à quel point ça va être horrible. Tu te promènes dans la maison, tu allumes les lumières, tu ouvres les portes et oups, tu tombes dessus. Parfois, ce qu'il découvre est particulièrement violent. Il décrit une intervention. Un homme qui n'avait pas vu son voisin depuis quelques jours. L'équipe de Max Charette-Vendette est entrée dans la maison. L'homme était au sous-sol, mort. À genoux, la tête prise dans sa scie d'établi. Les murs étaient couverts de sang. Je m'attendais à quelque chose, mais vraiment pas à ça. Une surexposition. Dans les grandes villes, il y a aussi l'exposition récurrente à des scènes difficiles. Le service d'incendie de Montréal, CIM, a reçu 130 000 appels en 2024, dont 80 000 étaient des appels de type premier répondant. Selon une étude menée par le CIM, 15 % des appels de type premier répondant sont à risque traumatique. On ne peut pas savoir à l'avance l'impact que ça va avoir. C'est après qu'on le réalise, dit le lieutenant Sylvain Dominique, pompier à Montréal. Moi, quand j'ai commencé, on ne faisait pas premier répondant. Les jeunes vont être beaucoup plus exposés. C'est eux qui vont y goûter. Chaque fois, ça laisse une égratignure sur le disque dur. À la longue, il se retrouve avec un paquet d'égratignures, explique Julie Nadeau, travailleuse sociale spécialisée auprès des travailleurs d'urgence. Sauver des gens qu'on connaît. Hors des grands centres, les défis sont différents. Si les pompiers répondent à beaucoup moins d'appels, ils interviennent souvent auprès de gens qu'ils connaissent. C'est ça le problème de notre région. On est 15 services d'incendie et la population, c'est 21 000. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, dit Éric Lacaille, directeur du service incendie de Blue Sea, dans la vallée de la Gatineau. Les gens, dans 90 % des appels, je les connais, ajoute son confrère, Michael Gainsford, directeur du service incendie à Gracefield. Monsieur Lacaille raconte un appel reçu il y a quelques années pour une explosion. L'adresse était celle de son oncle. J'arrive là. Je vois ma tante sortir, puis mon oncle. Ils me disent que quelqu'un est mort. Dans la maison, un homme qui dégelait des tuyaux a une partie de la tête arrachée. Ce n'était pas beau, lâche le pompier. Martin Lafrenière, directeur adjoint du service incendie du lac Sainte-Marie, a eu à faire un massage cardiaque sur son ancienne belle-fille après un accident de motoneige. Des jeunes qu'il connaissait ont assisté à la scène. La mère de la victime est allée sur place. Elle a perdu la carte lorsque les ambulanciers paramédicaux ont décidé de cesser les manœuvres de réanimation. Une aide inadaptée. Malgré tout ce qu'ils vivent, l'aide psychologique et le filet de sécurité déployés autour des pompiers sont défaillants à plusieurs endroits au Québec, déplorent des intervenants sur le terrain. Selon la travailleuse sociale Julie Nadeau, il manque d'intervenants spécialisés auprès des travailleurs d'urgence. L'intervenante du programme d'aide aux employés, elle n'est pas formée pour ça. Elle va briser en entendant leurs histoires. Les pompiers, ça leur prend déjà beaucoup pour raconter ce qu'ils vivent. C'est aussi ce qu'a constaté la coroner qui a enquêté sur la mort du pompier de Boisbriand. Il est reconnu que les pompiers n'admettront que très rarement leur vulnérabilité, écrit-elle dans son rapport. Elle a recommandé à l'Union des municipalités d'inciter ses membres à mettre en place un programme d'aide spécialisé et de mener une série de formations. Des recommandations semblables ont été faites au ministère de la Sécurité publique. 4 ans plus tard, le ministère de la Sécurité publique indique avoir mené, en mars 2025, une campagne de sensibilisation et de prévention du suicide s'adressant au personnel de la sécurité publique. On a aussi rappelé aux gestionnaires l'existence d'un des rares services de thérapie spécialisée au Québec, PSPNet, qui reçoit du financement du gouvernement. L'Union des municipalités n'a pas précisé si de nouvelles mesures ont été mises en place depuis l'enquête de la coroner. Une porte-parole a précisé que les employés peuvent adhérer par l'UMQ à divers regroupements d'assurance, dont un régime collectif, qui donne accès à un programme d'aide. Dans certaines villes, les services incendies organisent systématiquement des rencontres de style « debriefing » avec tous les pompiers impliqués dans des interventions difficiles. Plusieurs ont aussi des programmes de pairs aidants. Vous écoutez « Des pompiers surexposés à l'horreur », un dossier de Gabriel Duchesne, paru le 8 septembre 2025 dans la presse. « Il n'y a personne qui veut nous aider. Il a fallu plus d'un an et des allers-retours entre 5 CLSC pour que le pompier Michael Gansford obtienne l'aide psychologique dont il avait désespérément besoin. Depuis 38 ans, Michael Gansford est pompier à temps partiel à Gracefield, dans la vallée de la Gatineau. Il est aussi directeur de son service incendie. Dans son autre vie, il est agriculteur. On s'entend-tu que j'en ai vu des affaires? En 2022, il a reçu l'appel de trop. Un accident de VTT. 2 victimes. Des jeunes femmes en visite dans la région. Il est arrivé le premier. Il a commencé les manœuvres de réanimation. Jamais il n'oubliera les cris de l'autre jeune femme pendant qu'il tentait de sauver son amie. Malgré les efforts de M. Gansford, elle est morte. 3 jours plus tard, son père à lui est mort. Tout a basculé. Je me suis mis à avoir des flashbacks, témoigne-t-il. Je pourrais vous raconter en détail ma première intervention il y a 38 ans. Un gars qui a brûlé dans son char. Sa patronne l'a trouvé en larmes dans son bureau. C'est là que le parcours du combattant a commencé. Pendant 1 an et demi, il a été envoyé d'un CLSC à l'autre. « On ne fait pas ça », lui a-t-on dit dans un des établissements. Ailleurs, la dame l'entendait parler et elle pleurait au téléphone, raconte le pompier. Un autre ne l'a jamais rappelé. Lorsque des démarches dans un 5e établissement se sont avérées vaines, il a abandonné. C'est finalement sa médecin de famille qui a posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Depuis, il est suivi par un psychologue. Durant tout ce temps, il a travaillé. Une suite d'histoires d'horreur. Le cas de Michael Gansford n'est pas isolé. Nous avons rencontré 5 directeurs et directeurs adjoints de services incendie dans des municipalités de la vallée de la Gatineau, dont M. Gansford. Dans la région, tous les pompiers sont à temps partiel, anciennement appelés pompiers volontaires. Sur le mur du petit bureau de la caserne de Lac-Sainte-Marie, où les hommes nous racontent chacun leur histoire d'horreur, une affiche prévient les pompiers des risques de maladies pulmonaires. Rien sur les blessures psychologiques, remarque Martin Lafrenière, directeur adjoint du service incendie de Lac-Sainte-Marie. Ce ne sont pas les besoins qui manquent. Même si de nombreux pompiers ne sont pas formés comme premiers répondants dans cette région, ils sont souvent les premiers sur les lieux de toutes sortes d'événements à fort potentiel traumatique, qu'ils doivent gérer seuls, en attendant une aide qui vient de loin. Ici, moins de 5% des appels concernent des incendies de bâtiments. Dans notre coin, quand les gens ne savent pas quoi faire, ils nous appellent, dit Sam Lefebvre, directeur du service incendie de Grand Remous. Il y a quelques années, Martin Lafrenière a eu à intervenir pour un suicide sur le site d'un barrage hydroélectrique. Quand on y est arrivé, raconte-t-il, le gars s'était pendu avec un câble d'acier et avait été décapité. Les deux parties du corps étaient en bas. Le policier nous dit « Mon boss ne veut pas que je descende. Je n'ai pas de formation pour ça, moi. Je ne suis pas un homme araigné. » Mais on est allé quand même. Avec 2 collègues, il s'est retrouvé en bas, un sac mortuaire et une pelle en main. On s'arrange avec l'équipement qu'on a, dit Martin Lafrenière. Au printemps 2024, Michael Gansford a été appelé sur les lieux d'un accident de la route. Parce qu'il le sait fragile, son voisin et ami Éric Lacaille, directeur du service incendie de Blousy, est allé avec lui. Une jeune femme était morte dans le véhicule. On était une 15aine d'intervenants. Il y avait comme 50 personnes autour. Ça criait après nous autres. « Faites de quoi, sauvez-la, dépêchez-vous !» Une fois le décès constaté à distance, l'ambulance est partie. Les pompiers sont restés avec le corps pendant près de 4 heures en attendant la morgue. Sam Lefebvre a vécu une histoire semblable. Un homme avait fait un arrêt cardiaque. Les pompiers ont tenté de le réanimer en plein hiver dans le banc de neige. À l'arrivée des ambulanciers paramédicaux, il a été décidé de cesser les manœuvres et un constat de décès a été effectué à distance. L'ambulance est repartie, les policiers ont reçu un autre appel et les pompiers se sont retrouvés seuls avec le corps. Sa femme était couchée dessus. Elle ne voulait pas le lâcher. Il faisait noir. On essayait d'éclairer. On a essayé de l'amener dans le camion, mais elle ne bougeait pas. Elle était presque en hypothermie. Ils l'ont couverte et ont attendu presque 2 heures que la morgue vienne chercher le corps. On ne pouvait pas laisser la dame seule dans la neige avec son mari. Plusieurs pompiers affectés. En 2023, une enquête de la CNESST dans la ville de Blousy a noté que plusieurs pompiers ont vécu des problèmes de santé associés au stress post-traumatique lors d'interventions difficiles. On comptait, à l'époque, 15 pompiers à temps partiel. J'ai dit à l'enquêtrice « On a un problème dans la région. Il n'y a personne qui veut nous aider. Il n'y a de porte nulle part. J'ai essayé les hôpitaux, les CLSC, les directrices. J'ai appelé tous les hauts placés. On me dit que quelqu'un va me rappeler. Mais non, il n'y a jamais personne qui le fait. La CNESST a décidé d'élargir son enquête à toute la MRC, jugeant que le risque ne se limite pas à un service de sécurité incendie précis. La situation n'est pas propre à cette région. Plusieurs petites villes n'ont pas de ressources, pas de programme de père aidant, dit le président du syndicat des pompiers et pompières du Québec, Alain Caron. En 2024, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie de la vallée de la Gatineau a essayé de financer un partenariat avec l'organisme d'aide aux intervenants d'urgence, la Vigile. Son projet était simple: permettre à tous ses pompiers d'obtenir de l'aide psychologique gratuitement et anonymement lorsqu'ils en ressentent le besoin. Une telle entente existe déjà dans 18 services d'incendie au Québec. Coût estimé, 20 000 $. Les chefs comptaient utiliser de l'argent récolté dans le cadre d'une loterie de la radio communautaire. Mais lorsqu'ils ont présenté leur idée à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, chargée d'approuver la manière dont seraient utilisés les fonds, l'organisme a estimé que ça n'était pas assez concret, selon Éric Lacaille. On a acheté de l'équipement à la place. Besoin d'aide pour vous ou un proche? Ligne québécoise de prévention du suicide, 1-866-APPEL 277-3553. C'était « Des pompiers surexposés à l'horreur », un dossier de Gabriel Duchesne, paru le 8 septembre 2025 dans la presse.
Réclamez votre tranche de 404 millions. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 11 septembre 2025 dans la presse. Cette histoire abracadabrante de cartel du pain est loin d'être terminée, mais au moins elle avance. Ceux qui ont acheté du pain entre 2001 et 2021 peuvent désormais s'inscrire en ligne pour obtenir une indemnisation. Une somme alléchante de 100 $ par personne a été évoquée devant le juge. Nous avons tous payé notre pain au moins 1,50 $ trop cher pendant des années, selon le Bureau de la concurrence. L'heure du remboursement est arrivée. Il sera possible de soumettre sa réclamation à compter d'aujourd'hui sur le site www.règlementpainquébec.ca, ai-je appris. La date limite est le 12 décembre. Ne tardez pas, car vous risquez d'oublier. Aucune preuve d'achat n'est requise, ça va de soi. Loblaw, maison mère de Maxi, Provigo et Pharmaprix, avait admis en 2017 avoir participé à un stratagème de fixation des prix du pain baptisé « Convention 7 sur 10 ». Cette stratégie illégale aurait permis aux entreprises ayant participé au complot d'empocher des milliers de dollars. On sait depuis un an que Loblaw s'est entendu pour verser 404 millions aux consommateurs, question d'en finir avec les actions collectives. Mais rien n'avait bougé depuis. En ajoutant les 96 millions déjà distribués sous forme de cartes cadeaux de 25 $ il y a quelques années, le règlement totalise 500 millions. Au cabinet LPC Avocat, membre du consortium canadien qui pilote le dossier, on est convaincu qu'il s'agit de la somme la plus élevée jamais payée par une entreprise dans une histoire de collusion au pays. Reste à voir combien chacun d'entre nous obtiendra. Peut-on vraiment espérer un virement de 100 $? La somme obtenue par chaque consommateur de pain dépendra du nombre de réclamations enregistrées. On sait aussi que les Québécois se partageront 22 % des 404 millions mis de côté par Loblaw, soit près de 89 millions. Le reste ira dans les autres provinces. Maintenant, rappelez-vous ce qui s'est produit dans le dossier de Dollarama et des Écofrais. Pas moins de 1,28 million de Québécois s'étaient inscrits pour recevoir leur part du 1,35 million sur la table. Au départ, il était question d'une indemnité de 5 à 11 $ par personne, peut-être même 15 $. Au bout du compte, victime de son succès, la somme promise a fondu à 1 $. Un maigre et ironique montant, vous en conviendrez. Le juge a d'ailleurs refusé cette distribution d'argent. Supposons maintenant que les 89 millions de Loblaws intéressent autant de monde, soit 1,28 million de Québécois. Ce serait logique. Chacun se retrouverait avec 69 $. En réalité, le calcul est toutefois plus compliqué, car ceux qui ont déjà obtenu la carte cadeau de 25 $, ils sont très nombreux, obtiendront une somme amputée d'autant. Il en restera donc plus pour les autres. Mais d'un autre côté, il faudra retirer du montant global les frais administratifs et les honoraires des avocats. Au Québec, les deux cabinets qui pilotent le dossier, LPC et Renault et Vatilakis, réclament près de 21 millions. La Cour ne leur a pas encore dit oui. Malgré toutes les inconnues, vous aurez compris qu'on sera bien loin du prix d'un simple paquet de bagels. L'estimation de 100 $ n'est pas si farfelue. Ça vaut assurément le coup de prendre 2 minutes pour s'inscrire en ligne. Par la suite, ne manquez surtout pas d'encaisser l'argent qui vous sera versé par la firme Concilia au moyen d'un virement Etherac. Ce n'est pas futile de le rappeler. L'avocat Joey Zucran, de LPC Avocat, m'a donné en exemple l'action collective contre Apple concernant sa garantie étendue AppleCare. Citation, « On a réglé pour 24 millions et il reste 11 millions. » Fin de citation, dans la cagnotte, dit-il, notamment parce que des sommes n'ont pas été encaissées, certains croyant avoir affaire à une fraude. Bien sûr, cette saga n'est pas terminée, car d'autres entreprises sont visées par l'action collective. Sobeys, IGA, Metro, Walmart, Tigre Géant et Canada Bread. Et à partir de maintenant, Loblaws, citation, devra collaborer, fin de citation, avec les avocats au dossier pour les aider à, citation, obtenir gain de cause contre les autres qui continuent de nier leur participation dans le cartel. Se réjouit Maître Zucran, c'est une partie essentielle de l'entente, fin de citation. Cette partie du règlement, appelée annexe D, s'étend sur plus de 8 pages. Le juge y précise dans le fin détail la liste des documents que Loblaws devra transmettre concernant ses ventes et ses coûts notamment. L'épicier est aussi tenu d'aider les avocats à comprendre les données, à déchiffrer le jargon et les acronymes, à reconnaître les éléments pertinents et à expliquer la chronologie des interactions entre les commerçants. Le géant ontarien est même appelé à identifier les employés et les dirigeants qui, à sa connaissance, citation, ont participé aux décisions de tarification dans l'industrie du pain emballé. Fin de citation. Pour ne pas être la seule enseigne à casquer, Loblaws va certainement se faire un plaisir d'aider les avocats à bâtir la preuve qu'une stratégie de gonflement des prix à l'échelle canadienne ne peut se faire tout seul dans son coin. J'attends déjà avec impatience le prochain chapitre de ce roman qui s'écrit depuis 2001. C'était « Réclamez votre tranche des 404 millions », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 11 septembre 2025 dans La Presse.